Europe 1. Nous sommes en plateau dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. Éric Nolot est là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maître Salman, François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Un policier, Denis Jacob, du secrétaire général Alliance Alternative, pardon, Police, Céline Pina et Alexandre Devecchio. Tout bonsoir, de suite, on va écouter, bonsoir à tous, la procureure de Bordeaux qui revient sur le déroulé des faits, ce qui s'est passé hier soir sur les bords de la Garonne. Écoutez-la.
Suite aux événements qui sont survenus à Bordeaux le 10 avril 2024, entre 19h30 et 19h50, en bord de Garonne, entre le miroir d'eau et le pont de Pierre, le parquet de Bordeaux, a ouvert deux enquêtes judiciaires. Pour l'une, visant l'assaillant, des chefs de meurtre, tentative de meurtre et violence avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur fonctionnaire de police. Et pour l'autre, d'homicide volontaire, afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles l'un des policiers primo intervenant a été amené à faire usage de son arme de service pour neutraliser l'assaillant. Ils étaient invectivés aux alentours de 19h30 par un individu, pour des raisons a priori liées, selon les premiers témoignages et plusieurs témoignages, à leur consommation d'alcool. Le mis en cause, décrit comme porteur d'un camis et d'un keffier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les deux victimes à coups de poing, puis il s'éloignait. Ces dernières se relevaient, puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour.
Voilà pour les faits rapportés par Frédéric Porteret, la procureure de Bordeaux. Régine Delfour, vous êtes à Bordeaux avec Laurent Sélarié. Bonsoir à tous les deux. Vous avez suivi cette conférence de presse. Beaucoup d'informations dans ce qu'a dit la procureure, notamment sur le profil de cet homme qui a été abattu par la police.
Oui, absolument, Laurence, puisque nous n'avions pour l'instant aucune information le concernant, ni son identité. La procureure de la République de Bordeaux nous a dit que selon le fichier Eurodat, mais ce sont des informations qui sont en train de vérifier, ce serait un demandeur d'asile et il serait afghan, il aurait 25 ans. Il avait 25 ans et on ne sait pas encore pendant combien de temps, depuis combien de temps il était à Bordeaux. Il y a aussi cet nouvel élément, c'est que il s'en est pris auparavant à d'autres personnes qui étaient en train de consommer de l'alcool, un verre de rosé, qu'il a commencé à les frapper. Il s'ensuit une bagarre, il a sorti un couteau. C'était pas un couteau, un opitnel, mais un couteau de chasse. Il est ensuite parti et c'est à ce moment-là donc qu'il a croisé ces deux Algériens qui eux aussi étaient en train de consommer de l'alcool, où il y a eu d'abord ces invectives. Après des coups de poing, il est revenu et il les a poignardés. Il faut quand même savoir que la victime, celle qui est décédée, qui avait 37 ans, a reçu 9 coups de couteau. La deuxième qui a été blessée grièvement, 3 plaies dont 3 perforantes. Cet homme, vous l'avez dit, était vêtu d'un camis, il avait un keffier. Donc pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi, mais il suit évidemment cette affaire, puisque s'il s'avère que c'est un afghan et qu'il était demandeur d'asile et qu'il y a évidemment toutes ces suspicions au niveau de la religion, le parquet antiterroriste, national antiterroriste, pourrait donc s'en saisir. La procureure a aussi demandé s'il y avait des personnes qui avaient de nouvelles informations de ce manifesté. Vous l'avez dit, Laurence, une enquête de l'IGPN a été ouverte, puisque le policier qui a tiré avec un fusil d'assaut pour le neutraliser, puisque la procureure et le directeur interdépartemental de la police nationale l'a rappelé, l'assaillant était qu'à quelques mètres, 5 mètres du policier.
Merci beaucoup, Régine Delfour. Laurent Sélarié pour ces précisions. Denis Jacob, vous êtes policier. D'abord, on va revenir sur le travail fait par vos collègues. 7 minutes après l'attaque de cet homme, ils étaient sur place et ils ont stoppé l'assaut meurtrier avec un fusil d'assaut, alors que l'homme était à 5 mètres seulement d'eux. Et après avoir fait toutes les sommations d'usage, c'est important de le préciser.
Oui, tout à fait. À ce stade, et ce que m'ont confirmé les collègues hier soir, c'est que les règles de la légitime défense ont été respectées. Contrairement à ce que j'ai pu entendre sur d'autres médias, l'assaillant n'était pas en fuite et il n'a pas été neutralisé parce qu'il était en fuite. Il était en confrontation directe avec les collègues. La procureure l'a d'ailleurs rappelé, donc ça confirme bien les informations que j'avais eues hier soir.
Il s'approchait bras tendu avec un très long couteau de chasse.
Tout à fait. Et donc, pour protéger sa vie et celle d'autrui, mon collègue a utilisé l'arme dont il avait la dotation, à savoir le HK G36. Ce n'est pas anormal qu'il ait pu utiliser cette arme puisqu'elle est en dotation dans le cadre de Vigipirate depuis les attentats de 2015 notamment. C'est pour cette raison qu'on en a été doté, il faut le rappeler, et que pour le moment, rien ne laisse présager que le collègue n'aurait pas respecté les règles de la légitime défense.
Et il a peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, évité un massacre.
Complètement.
On a appris, Eric Nolot, qu'auparavant, avant ce drame, l'assaillant s'en était déjà pris à deux autres personnes qui consommaient de l'alcool. Le périple aurait pu se poursuivre de façon dramatique.
Oui, c'est pour ça que si je dois résumer d'un mot l'impression que me laisse la conférence de presse de la procureure de la République, c'est perplexité. La procureure de la République nous a détaillé, nous a donné toutes les caractéristiques d'un attentat islamiste, mais ce n'est pas un attentat terroriste. Moi, j'ai beaucoup de mal
pour
à saisir la distinction.
Bon,
non, mais j'espère que ça va être requalifié, parce que, écoutez, pour le bon sens commun, quelqu'un qui tue au nom de la religion, il me semble que c'est un attentat terroriste. Ensuite, bon, ben, c'est un demandeur d'asile. Encore une fois, nous avons importé le terrorisme, et ça pose la question du traitement des demandeurs d'asile. Avant de laisser quelqu'un entrer sur notre territoire, déambuler à sa guise pendant des semaines et pendant des mois, moi je crois qu'il faut traiter son cas en dehors de nos frontières, savoir qui est exactement cet homme et s'il est absolument sûr de le laisser entrer sur notre territoire. Faute d'avoir fait ça, eh bien, il y a un homme à l'hôpital et un autre qui est mort.
Maître Sarah Salman, on est sur le parcours, je dirais malheureusement assez classique.
Alors la procureure de la République reste très précautionneuse et on peut le comprendre, on est au début de l'enquête. Néanmoins, il y a quand même un faisceau d'indices où il y a une personne qui, au nom de la religion, vient attaquer des personnes qui boivent de l'alcool et qui récidive. Et il y a, à mon sens, une certaine préméditation. On ne parle pas d'un petit couteau, mais d'un couteau de chasse. Donc ce faisceau d'indices où on nous explique ensuite qu'il y aurait un sentiment de musulman rigoriste, un sentiment...
C'est ce qu'a dit la procureure. Hein,
c'est ce qu'elle a dit.
Un sentiment de
musulman rigoriste, ce sont effectivement ces termes-là, vous faites bien de le préciser. Moi, ça m'interpelle de dire des choses comme ça. Jusqu'où faut-il pour passer du sentiment à la réalité? Il y avait quand même un vêtement, il y avait un cheminement intellectuel. Eh bien, c'est quelque chose... Si on ne fait rien, si on a le mauvais diagnostic, nous allons à nouveau être confrontés à des faits de société similaires dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, il faut traiter les mots à leur racine. Il y a effectivement ce problème d'immigration illégale. Alors ça, on semble l'occulter complètement. Et il faut aussi poser le bon diagnostic. Parce que à Gare de Lyon, pareil, la piste terroriste a été écartée. Je trouve qu'on écarte cette piste beaucoup trop rapidement.
C'est votre sentiment aussi, Alexandre Devecchio?
Oui, effectivement, ce qu'on ne veut pas voir, c'est le djihadisme d'atmosphère décrit par Gilles Kepel. Effectivement, c'est pas un attentat, encore une fois, qui a été prémédité par un réseau, très probablement, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a agi au nom de la religion et pour terroriser ses co-religionnaires et même l'ensemble de la population. Donc on est bien dans la définition du terrorisme, et du reste c'est très inquiétant parce qu'on a un processus qui rappelle d'une certaine manière la décennie noire algérienne, où
les années 90.
Pour terroriser ceux qui n'étaient pas de bons musulmans, on allait parfois les égorger jusqu'à chez eux. Donc c'est un peu ce qui est en train de se produire, surtout que si on met bout à bout les différents faits divers qui n'en sont pas depuis quelques jours, Samara, c'est une histoire de voile. Ensuite, on a Chemseddine, c'est parce qu'il parlait à une femme,
une
donc on veut imposer un code où les jeunes filles et les garçons ne peuvent plus parler. Et là, c'est une histoire d'alcool. Donc, on voit bien qu'une partie des minorités agissantes, parfois en situation totalement illégale, tente d'imposer la charia dans ce pays.
Autre extrait de ce qu'a dit la procureure, je vous passe la parole ensuite François Péponi et Céline Pina. Elle revient sur le fait que cet homme reprochait aux deux personnes qui étaient sur son chemin de boire de l'alcool en cette journée de fin de l'Aïd. Écoutez-la, la procureure.
Il en résulte qu'hier soir, l'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami, Rachid Bouave, et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les deux amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing.
Des coups de poing et après, il retourne sur ses pas, il leur lance une canette et il les poignarde. Ce serait bien qu'on ait l'ensemble de ce qu'a dit la procureure.
Je suis assez étonné François Péponi. De la prudence de la procureure parce qu'on ne peut pas nous dire depuis des semaines et depuis quelques jours il y a une menace terroriste maximum. Al-Qaïda et l'État islamique ont même dit « allez dans les stades et tuez-les ». Et quand un individu sur ces motifs-là passe à l'acte, considérez que c'est pas lié. Bien entendu que les messages de haine qui sont véhiculés en disant rentrez dans les stades, allez dans les villes, tuez-les, passez à l'acte, il y en a qui l'entendent. et qui prennent ça au premier degré et qui passent à l'acte. Et si on fait pas la jonction entre les deux, bah effectivement, comme Alexandre Vecchio l'a dit, on est un peu démunis, parce que là, bien entendu que c'est lié. Pourquoi vous le
connaissez? Comment? Très juridiquement, il
faut. Pourquoi ne pas le dire, alors? Pourquoi ne pas le dire?
Mais oui, mais un lien direct.
On a peur de quoi?
Un message qui passe, un message qui passe et qui dit, tuez-les là où vous pouvez, égorgez-les là où vous pouvez. Enfin, les messages, quand le ministre de l'Intérieur dit, on est dans une menace terroriste maximum, je peux vous dire que les services de renseignement, ils ont tous les messages, on sait d'où ils viennent, on sait ce qui est dit. Et si effectivement la justice fait pas le lien, bah, on est dans cette situation-là et on va peut-être nous expliquer qu'il était un peu déséquilibré.
Alors s'il était encore vivant, on aurait eu la piste de la psychiatrie.
Oui,
on a quelque part un vrai souci politique. C'est-à-dire que si l'attentat avait été commis par quelqu'un d'extrême droite, il n'y aurait eu aucun souci, le lien aurait été fait de manière immédiate. Pourquoi ? Parce que ça sert un narratif. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi en pleine campagne électorale, dans laquelle Emmanuel Macron essaie de refaire ce qui lui a réussi jusqu'à présent. Donc on comprend qu'il remette en place la même stratégie, qui est de dire « je suis un rempart contre le chaos que pourrait amener le RN s'il était élu, s'il était très très fort ». Donc, pour ne pas faire le jeu du RN, il est très important de nier la dimension islamiste, parce que c'est elle aujourd'hui qui nourrit le vote RN. Pourquoi ? Parce que les gens, s'ils étaient dans une dérive fascisante, ils iraient voter LFI. LFI vous dit très clairement, et dans l'antisémitisme, et dans la fascination pour la violence politique, si vous avez envie d'une dérive fasciste, vous allez vers LFI. Or là, c'est exactement le contraire. Les Français veulent protéger leur mode de vie. Ils ont le sentiment que finalement, leurs représentants les trahissent. Et la première des trahisons, c'est qu'ils font tout de suite le lien en disant « mais il y a une dimension religieuse, il y a une dimension islamiste dans cet acte ». La France leur dit « ah ben non, pas du tout, il n'y a aucun problème ». Donc ils se disent « ok, ils sont décidés à ne pas lutter, ils nous abandonnent une fois de plus, donc allons essayer de voter pour d'autres propositions ». Et je ne comprends pas que l'on continue, à force de ne pas vouloir faire le jeu du RN, on expose les Français, on expose les musulmans qui sont accusés d'être de pas assez bons musulmans, tout ça pour à la fin que les gens votent RN.
Ils sont eux-mêmes ciblés par les islamistes, voilà, les musulmans. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur le profil de l'assaillant qui a été abattu hier par la police. Un demandeur d'asile, donc de 25 ans, a priori de nationalité afghane. A tout de suite dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.